Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio.
Live de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Marceau le midi.
On vous apprendra rien en vous disant qu'il y a un avertissement de chaleur sur le site de Météo Média ainsi que sur le site d'Environnement Canada actuellement sur Québec. Température 28. Avec le facteur humidex, ça pourrait être une température ressentie dans votre secteur de 36.
Pour je pense aujourd'hui. Qu'on est plus là, Yannick.
Ouais.
Là, je pense ressenti 36 et je pense ressenti 42 maintenant.
Ouais, c'est ça. Le gars qui nous écoute présentement sur son chantier de construction dit il fait chaud en tabarnak.
Il sait plus. Ouais. Il sait plus combien, il fait juste chaud.
Il dit pas
il fait 30, il fait chaud en tabarnak. C'est ça. C'est ce qu'il
dit. Qui a le plus chaud à Québec? On veut vos photos. 88-971-1021.
Lâchez pas pour tous ceux qui ont des jobs où ils n'ont pas l'air climatisé. On a une petite pensée pour vous autres. Ce soir, cette nuit, la chaleur devrait partir, les amis. Minimum de 16 degrés. Demain, vendredi, ça va se continuer. Maximum de 26, mais l'humidex serait une température ressentie de 28, c'est ce qu'on nous mentionne. Et pour ce qui est du week-end, ça revient à la normale. Donc, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 27 et dimanche, ce sera de la pluie, maximum de 18 degrés.
Quelques ralentissements ce midi à vous mentionner. Sur Capitale en direction ouest, il y a un ralentissement à partir de la 1ère avenue jusqu'à la hauteur de Laurentienne. Laurentienne direction sud, l'embranchement pour aller chercher la Capitale en direction ouest, c'est également au ralenti. Et au rouge, à la hauteur de Robert Bourassa sur Capitale en direction est.
Pour ou contre, Pascal, la transparence pour ce qui est des salaires quand les gens travaillent au public?
Pour.
Pourquoi?
Parce que c'est l'argent des contribuables et des fois, on ne va pas toujours comprendre les sommes. Elles vont parfois être très, 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 très grandes, mais au moins, on va pouvoir questionner puis avoir un droit de regard sur tout ça, même si on n'aura pas la possibilité de diminuer leur salaire.
On semble être différent du reste du Canada pour ce qui est des salaires de nos hauts dirigeants, surtout ceux qui travaillent pour l'administration publique, que ce soit la Caisse de dépôt et de placement, que ce soit la SQDC, la SAC, Hydro-Québec, l'Auto-Québec. On parle de sociétés d'État qui ont une petite tendance à cacher leur salaire. Parfois, on a le salaire du haut dirigeant. Donc, j'en ai ici, là, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement, Charles Aymon, lui, a gagné, en fait, en 2023, 4,4 millions de dollars.
C'est dur à imaginer. Comment est-ce que tu peux valoir ça au sein d'une entreprise, surtout une société d'État?
Sans pour autant donner raison à son salaire, probablement qu'il gagnerait autant s'il était dans une entreprise du même type.
Oui.
Ou
mais s'il rapporte
gestionnaire.
Plus, tu sais, on va faire avec, mais il va falloir poser des questions, puis en sachant combien gagne, on peut en poser.
Mais il faut que ça soit mesuré, effectivement. Jacques Farcy, qui lui, c'est le monsieur qui est sur les affiches. Quand vous allez à SAC, là, puis il y a des affiches barbouillées là, qui ont été mises là par les employés, parfois, vous voyez monsieur Farcy qui a des petites cornes de diable sur la tête ou avec une moustache un peu louche.
Pas pour l'Halloween, là.
Ben, lui gagne un pauvre salaire de 528 000 $ et les salaires des autres cadres de la SAC sont cachés. Puis on se demande toujours pourquoi. Parce qu'ailleurs, les salaires sont divulgués. Je sais que Québécois a fait une grosse job pour ce qui est des salaires.
Faire une liste.
Pendant des mois et des mois, ils ont mis le salaire de la plupart des employés de l'État. Mais ce qui est particulier, c'est que François Legault ferme complètement la porte à la publication des salaires. On a eu l'idée d'en discuter avec Mme Geneviève Tellier, qui est professeure en administration publique à l'Université d'Ottawa. Bonjour Mme Tellier, merci d'être là ce midi.
Ça me fait un grand plaisir, bonjour.
Quand on vous pose des questions par rapport à ce qui se passe au Québec par rapport au salaire dans le public. Est-ce que ça vous surprend de voir ça, qu'on a un gouvernement qui est en place qui dit, ben pour ce qui est du salaire des grands administrateurs, oui, mais pour les autres, on va cacher ça. Est-ce que vous renderiez ça public? Est-ce que vous trouvez quelque chose dans le discours de François Legault qui va à l'encontre peut-être de la bonne démarche?
Je rendrai ça public et je pense que c'est un discours dépassé. Alors, je peux comprendre la réticence du gouvernement. Puis, en Ontario, moi, je suis professeure à l'Université d'Ottawa, donc je regarde ce qui se passe à l'Ontario. En Ontario, ça a été fait par Mark Harris dans les années 90. C'est sûr, au début, les gens étaient plus ou moins d'accord, surtout ceux dont le nom allait être publié, rendu public. Mais en passant, je vais vous dire, moi, c'est public, mon salaire. Alors, je fais partie de ce groupe-là. Et on est 300 000 personnes en Ontario. Le salaire est divulgué. Toute personne qui gagne plus de 100 000 $ et plus par année, qui est dans le secteur public ou parapublic. Donc, moi, je suis dans une université. Mais ça comprend aussi les dirigeants d'hôpitaux. Ça comprend les écoles, les établissements scolaires, les conseils scolaires, etc. Et donc, c'est rendu naturel. Alors oui, il peut y avoir une certaine résistance au départ, mais je pense que maintenant, tout le monde est habitué en Ontario, puis ça nous choque pas. On sait qu'une fois par année, c'est rendu public. Une fois par année, les journaux vont en parler. Puis comme un d'entre vous le disait tantôt, ça permet d'en discuter puis de faire des comparaisons. Alors on peut se dire, bon, ben, est-ce que c'est raisonnable? Oui, non. Est-ce que ça justifie le montant? Puis moi, ce qui me choque toujours dans tout ça, puis c'est un peu là que je comprends un peu moins la position de M. Legault, c'est que je me rends compte que notre premier ministre n'est vraiment pas payé si on regarde au salaire des autres. Et donc, on peut se dire, ben, il y a peut-être des inégalités à corriger parce qu'effectivement, il y en a qui ont des grandes responsabilités qui sont peu payées. Puis d'autres, on pourrait dire, bon, ben oui, ça semble être assez bien payé.
Mais ça, souvent, alors, c'est comment, ce combien tu rapportes. C'est même dans une entreprise privée, ça va avec, là. Puis premier ministre, probablement, qui se ferait pointer du doigt s'il gagnait 4,4 millions de dollars avec tout ce qui s'est passé au sein du gouvernement cette année, là. Mais Mme Tellier, vous avez été très honnête, puis j'ai capté cette phrase-là. Vous avez dit, c'est sûr qu'on a des réticences au début parce que vous êtes concerné par le fait que votre salaire est public. C'est quoi les réticences, honnêtement et humblement, qu'on a au départ? Vous avez été obligé, là. Mais c'était quoi vos réticences, vous, que votre salaire soit public?
Bien, vraiment, on m'informe qu'il va être public, alors c'est pas à moi à dire si je veux le mettre public ou non. Il y a deux réticences. Premièrement, on n'est pas habitué à parler de nos propres salaires. Alors, il y a cette réticence personnelle-là qui dit, bon, ben oui, les gens vont savoir combien je gagne. Ils vont peut-être être surpris par le montant que je gagne et donc ça va peut-être faire des envieux. L'autre réticence qu'on voit aussi beaucoup, c'est que maintenant, c'est le jeu de la comparaison. Alors, les gens vont dire, oui, mais telle autre personne ne fait pas le même travail que moi, mais elle gagne plus, par exemple. C'est pas juste. Alors, on va crier rapidement à l'injustice. Et les entreprises elles-mêmes, les organisations elles-mêmes, c'est là que ça devient intéressant, vont commencer à dire, est-ce que j'ai une bonne grille salariale? Alors, comment est-ce que je peux justifier que certains de mes employés gagnent tant, alors que d'autres gagnent plus ou gagnent moins? Et je pense qu'une bonne organisation qui veut être transparente aura une bonne grille salariale puis va être capable de la défendre. Puis ceux qui sont surtout plus réticents à divulguer cette information-là, c'est ceux qui ont peut-être pas réfléchi comme il faut à leur grille salariale, puis à se dire, bon, ben à compétence égale, salaire équivalent, et comment je fais pour justifier? Alors, c'est sûr que si vous avez des gens, je sais pas, prenez des médecins, qui, normalement, devraient tous gagner la même chose, mais vous voyez des grandes différences. Alors, comment expliquer ces différences-là? Des fois, ça peut être justifié, soit par la spécialisation, soit par l'endroit où on travaille, mais d'autres fois, ça ne l'est pas. Alors, est-ce qu'il y a du cas par cas qui s'explique plus ou moins? Bien, cette fameuse liste-là, ben, ça permet justement de faire le point.
Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas moi, est-ce que la réticence de François Legault à rendre public ces salaires-là, est-ce que ça peut être parce qu'on a peur que l'entreprise privée se dise « Ah, ben tu vois, à cet endroit-là, il gagne 1 million $ à la Caisse de dépôt et de placement. Moi, je serais capable de lui offrir s'il vient chez nous parce que je considère que c'est un top gun de l'économie. Ben, je considère que je pourrais lui donner 1,5. » Donc, on pourrait approcher ce candidat là qui est à la Caisse de dépôt et de placement en disant « Regarde, tu gagnes 1 million, mais nous, on pourrait te donner 1,5. » Ça peut-être être ça, la réticence de se faire voler nos grands bonzes?
Sur papier, oui, ça pourrait être un argument qui tient, mais dans les faits, on le sait que dans le secteur public, on gagne beaucoup moins que dans le secteur privé. Peut-être plus la comparaison entre les provinces puis les gouvernements. On le sait, en général, au gouvernement fédéral, les salaires sont plus élevés qu'au Québec, par exemple. Les salaires en Ontario sont assez équivalents au Québec. L'Ontario n'est pas très généreux, contrairement à ce qu'on pourrait se penser. Donc, effectivement, il y a peut-être un élément d'information qui est stratégique qui pourrait nous aider. Mais en même temps, ça joue sur les deux plans. Puis comme on connaît beaucoup les salaires du secteur privé, surtout les entreprises cotées en bourse, c'est assez facile d'avoir cette information-là. Je m'explique mal cette réticence-là. Alors, j'ai plus l'impression que c'est de la part, M. Legault doit recevoir de la pression de ses propres gestionnaires pour dire, ben, on n'aime pas trop ça, voir nos salaires divulgués. Comme je vous le disais tantôt, moi aussi, au début, j'aimais plus ou moins ça, mais on s'y fait rapidement. Là. C'est plus une question de changer les habitudes, je vous dirais, que vraiment être compétitif avec le secteur privé, parce que j'ai l'impression qu'au gouvernement, on n'est pas très compétitif. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, mon recteur à l'Université d'Ottawa gagne plus que le premier ministre du Canada. Vous voyez un peu le comment on ne paye pas beaucoup nos politiciens si on compare à des niveaux de responsabilité, je ne sais pas, similaires. Un recteur d'université chez moi, c'est quoi, 40 000 étudiants. c'est pas 40 millions d'habitants. Alors, ça permet de faire ce genre d'analyse-là.
Madame Tellier, vous êtes professeure en administration publique de l'Université d'Ottawa. Est-ce que la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est bien faite, ou il y a certaines lacunes qui permettent justement au gouvernement de se sauver de certaines informations qui devraient donner, mais qui se gardent une petite réserve?
Ben effectivement, on pourrait peut-être être plus clair dans ce qu'on pourrait aller chercher puis dire oui, les traitements, ça devrait être divulgué automatiquement. Puis moi, j'irais très loin. Alors, je ferais ce que fait l'Ontario, l'Alberta, puis d'autres provinces, c'est-à-dire que j'aurais le nom des personnes, leur titre, l'endroit où ils travaillent avec le salaire qu'elles gagnent. Au Québec, on a de la difficulté. Au gouvernement fédéral aussi, on a énormément de difficultés. Québécois aussi cherchaient à savoir les salaires. Ils veulent pas divulguer les noms. Même pas les postes. Alors, on sait même pas. Des fois, on voit sous-ministre, mais on sait même pas sous-ministre de quel ministère, par exemple. Et donc, il y a un manque de transparence. Alors oui, je pense que le meilleur exemple, c'est la fameuse Sunshine List, comme on l'appelle en Ontario, qui dit tous les établissements doivent envoyer leur liste au gouvernement, puis le gouvernement l'affiche en ligne. D'ailleurs, c'est très bien fait, c'est facile, vous pouvez chercher, c'est le format Excel, c'est pas une longue liste complexe à lire, puis vous voyez tout ce qui est au sommet de la... qui gagne les plus gros salaires, mais ça ne se fait pas au gouvernement fédéral, ça ne se fait pas au Québec, puis je pense qu'on pourrait facilement corriger ça pour rendre l'information vraiment plus accessible. Ça me semble pas normal que des journalistes doivent travailler des heures et des heures pour aller chercher cette information.
Mais surtout que quand on fait une demande à l'accès à l'information, il y a un 30 jours, il y a un délai de 30 jours qu'ils ont le droit de respecter. Ils peuvent demander que ce soit un petit peu plus long par la suite, mais à travers les années, il y a vraiment une tendance à caviarder, à manquer de transparence. Je me demande si on peut aller avec des avocats plus loin dans ces dossiers-là, parce que ça reste quand même quelque chose qui est public là, pour les citoyens, ça devrait être dévoilé. Mais j'ai une question sous-jacente à ça, Mme Tellier. Pourquoi est-ce qu'on a certains salaires, mais qu'on n'en a pas d'autres? Vous lisez quoi de la situation, vous, là-dedans? On a quand même eu un salaire de 4,4 millions de dollars qui est sorti dans l'actualité. Puis pour d'autres, on n'a rien qui ressort. C'est-tu parce que c'est pire? C'est-tu parce que ça pourrait amener des scandales? Comment vous lisez la situation?
Je le lis plutôt comme étant c'est une information qui est probablement connue, qui avait déjà été diffusée publiquement, soit dans les appels d'offres, quand vous faites des affichages de poste, ben, à un moment donné, ça sait les salaires qui sont négociés. J'ai pas l'impression que c'est vraiment pour vouloir cacher des choses ou que c'est pire, quoique on ne le sait pas. C'est ça le problème, c'est que si on n'a pas l'information, ben on va spéculer puis on va dire oui, mais pourquoi vous voulez cacher telle information? J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ne se sentent pas obligés puis que c'est la façon dont le processus s'est fait. Et souvent, la loi d'accès à l'information, l'argument pour pas divulguer l'information, c'est de dire « Ah, ça a été discuté au cabinet ». Dès qu'il y a quelque chose qui est discuté entre les ministres, il y a le secret ministériel qui fait que le gouvernement a le droit de ne pas divulguer cette information-là. Alors, on peut prendre le prétexte de « Ah ben oui, mais ça a été seulement publié ou présenté au Conseil des ministres, donc on n'est pas obligé, on n'a pas cette obligation-là de le rendre public ». Au lieu de dire oui, ça a été discuté au Conseil des ministres, mais quand même, on pense que c'est d'intérêt public, on va le faire. Ça, c'est pas écrit tel quel dans la loi, donc le gouvernement n'a pas l'obligation de le faire. Donc, on préfère donner moins d'informations que donner plus. Puis je vais vous dire, ça, c'est de façon un peu plus générale, j'en suis venue un peu à cette conclusion-là avec le temps, c'est nos gouvernements en général, pas juste à Québec, je mets Ottawa aussi dans ce groupe-là, puis sans doute toutes les provinces, préfèrent plus le secret que la transparence. Ils comprennent pas que la transparence, ça peut les aider.
C'est gagnant.
Ils ont l'impression qu'en faisant de la transparence, ils vont être obligés d'expliquer davantage les choses, ce qui est vrai, mais en expliquant davantage les choses, on comprend. Si vous dites, ben, monsieur Aymon, à la caisse de dépôt, je suis obligé de lui donner 4,4 millions de dollars parce que il y a eu une offre ailleurs pour lui aurait donné 6 millions. Oui, là, on comprendrait.
Mais c'est un abrutissement de la population pour moi. Je veux dire, ça revient au principe que si un enfant pose des questions, puis on dit pose pas de questions, tu sais, ça me tente pas de t'expliquer. Moi, c'est le parallèle, l'image qui me vient en tête. Au contraire, on va élever la société, on va se comprendre, on va être meilleur concitoyen, on va être capable, justement, de peut-être prendre des décisions plus éclaircies. On va ne pas vouloir être transparent pour ne pas avoir de questions. Pour moi, ça sonne d'autant plus négatif.
Je contredirais pas. Ça demande plus d'efforts, ça demande d'articles, ça demande aussi une prise de risque. parce que je veux pas, le gouvernement va être obligé de présenter ses arguments, puis là, il peut se faire critiquer, attaquer, puis ça va être le rôle de l'opposition de le faire. Mais je suis d'accord avec vous, je pense que collectivement, on va être mieux informés. Puis c'est ça, à force de discuter des salaires, on va comprendre, parce qu'on va dire, oui, ça semble faramineux, mais peut-être qu'en Ontario, la personne qui a le même poste, elle gagne 10 millions. Fait qu'on met ça en lien, puis on dit, bon, ben finalement, quand on compare, on se console. Mais au moins, on a cette conversation-là. Puis c'est pas dit qu'on va tous être d'accord, mais au moins, on va en avoir discuté, on va avoir compris ce que les autres disent. Et je suis d'accord avec vous, on va en sortir grandi, c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure compréhension des problèmes.
Madame Tellier, ça a été un plaisir.
Pareillement.
Au revoir. Bye-bye. Geneviève Tellier, qui est professeure en administration publique de l'Université d'Ottawa. On lui parlait justement des salaires de 5 sociétés qui n'étaient pas divulguées pour des raisons X concernant la loi sur l'accès à l'information. On parlait de la SAC, de la SQDC, des investissements, d'Investissement à Québec. La Caisse de dépôt et de placement aussi, il nous manque énormément de chiffres. Caisse de dépôt et de placement, on l'avait mentionné dans les médias. Charles Lemont, qui est autour de 4,4 millions de dollars. Jacques Farcy, le monsieur mal aimé des employés de la SAC actuellement, 528 000 $. Le salaire des autres cadres pour ce qui est de la SAC est caché. Puis on se posait des questions parce qu'en Ontario, comme Mme Tellier l'a bien dit, il y a une wish list. Donc les salaires sont tous divulgués.
On les voit.
Puis au Québec, ben, on se garde une petite réserve là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on se garde une réserve, mais on se dit. C'est mieux le secret, c'est mieux le secret.
Il y a quelque chose quand même, puis tu sais, on reste dans la thématique de l'argent, des salaires, de pas divulguer le tabou, l'argent, mais on sort un peu de la politique. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on est aussi intimidé envers les gens qui gagnent de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on les catégorise tout de suite? Moi, j'ai tellement de propriétaires d'entreprises qui m'ont dit, au moins trois, là, tellement, je veux dire, on n'est pas à 25, mais au moins trois à un moment donné dans ma vie qui m'ont dit, moi, je m'achète pas une voiture selon les moyens que j'ai, parce que si j'arrive dans ma propre entreprise avec cette voiture-là, je vais paraître comme un gros peddler, tu sais, puis mes employés vont peut-être envier ça, peut-être que les autres vont moins me prendre au sérieux, je vais avoir l'air moins d'un gars du peuple, tu sais, juste à propos d'une voiture.
Mais t'arrives avec une Lamborghini à job. T'arrives avec une Lamborghini à job, puis ton employé qui gagne 17$ t'a dit, ben patron, ça fait 2 ans que je travaille pour toi, j'aimerais savoir une pièce de l'heure de plus.
Mais tout ça, je saisis.
Je comprends l'employé de poser la question. J'aimerais ça avoir 1$ ou 2$ de plus. Ça fait 2 ans que je travaille pour toi. Et là, le patron de dire, ben selon ce qui rentre comme argent dans l'entreprise, j'ai pas les moyens de te donner 2$. Fait que je vais te donner 50 cents. Mais t'arrives avec une Lamborghini, ça a comme pas de sens. Faut voir les deux côtés.
Je comprends ça. Sauf que ça reste que c'est encore la question du tabou de l'argent.
Parfaitement.
Cette personne-là, elle a sûrement travaillé très fort pour son entreprise. Elle a décidé. Mœurs, valeurs, la façon dont la personne souhaitait faire les choses, de se donner un plus grand salaire, de rester dans ce confort salarial-là, mais elle le cache pas. Moi, hier, j'en disais avec un entrepreneur en restauration de la région très, très connu, puis Nate est avec moi, puis on l'a vécu ensemble ce moment-là. Il nous expliquait qu'il a dû fermer une succursale à un moment donné, puis il n'était pas capable de donner assez d'heures à ses employés qui ont dû transférer de succursale. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé son propre salaire pour les payer.
Il y en a énormément qui font ça. Mais moi, je considère que si le patron qui arrive avec une Lamborghini est honnête avec ses employés, il n'y aura jamais le trouble des comparaisons. Tu sais, un patron qui respecte ses employés puis qui donne la juste part aux employés n'aura jamais de problème avec ses employés.
Mais on a un tabou au Québec
problème,
avec l'argent.
Le problème, c'est l'ancienne génération qui n'avait pas de problème à montrer à quel point ils étaient devenus riches en ayant leur entreprise. Mais à l'intérieur de l'entreprise, la majorité des gens qui étaient là étaient pauvres.
Il y en a qui étaient radins. Mais dans l'air, justement, là, de tout ce qui a été commercialisé, puis qu'on a commencé à travers la chaîne, puis tout ça, il y en a qui s'en mettaient bien plus des poches. Mais ça, je comprends. Sauf que là, c'était un exemple que je donnais. Ouais. Mais ce que je dis, c'est qu'on a un tabou au Québec avec l'argent. On a un tabou envers les gens qui ont étudié, qui font un certain salaire, qui ont un métier qui est mieux payé que l'autre. C'est-tu l'envie? C'est-tu, je sais pas moi, la colère? C'est-tu justement des gens qui ont été abusés par le passé financièrement? Pourquoi on a un aussi gros tabou puis inconfort avec l'argent?
Mais j'ai toujours pensé plus de ton côté, mais j'ai vu l'envers de la médaille en étant très près d'un patron qui, lui, sous-payait ses employés et lui se surpayait.
Mais tu quittes l'entreprise.
Ses employés travaillaient extrêmement fort et lui, il l'avait plutôt relax. Puis pendant la pandémie, ce que je trouvais hallucinant, c'est qu'il y a des employés qui se sont fait couper leur salaire. Mm-hmm. Des employés qui avaient de la misère à arriver pendant la pandémie, mais qui avaient accepté un plus petit salaire pour rester dans cette entreprise-là.
Puis le patron ne s'était pas coupé.
Et le patron
se vantait des achats de voitures qu'il faisait pendant la pandémie.
Il va perdre ses employés, tant pis pour lui.
Mais tu comprends la vision de l'employeur en disant, ben là, ça n'a pas de bon sens que lui, il arrive avec ses chars à chaque semaine puis que moi, il me coupe mon salaire de moitié. Je comprends la relation patron-employé. Le gars, il est parti de son entreprise, la fille est partie de son entreprise, il travaille extrêmement fort. Mais à un moment donné, je pense qu'un patron qui respecte ses employés n'aura jamais de problème à amener son beau char en face de la business.
Exact.
Mais on parle d'humanité.
Parce qu'il est honnête.
On parle d'humanité. Mais il y a un tabou avec. Toi, tu dis-tu ton salaire à ta blonde? T'as-tu toujours dit ton salaire à tes blondes?
Ben, en fait, quand t'es conjoint de fait, t'as pas le choix, là. C'est le moment où...
Non, mais la question, c'est t'as-tu
c'est
toujours...
C'est le moment où tu fais ton rapport d'impôt avec
tu dates ou je sais pas quoi. Est-ce que tu parles des salaires?
Non. En date, non. C'est
est-ce que, sans être conjoint de fait, mettons, avant que tu sois conjoint de fait, c'est 3 ans, là, conjoint de fait, habiter ensemble?
Non, c'est
deux?
Un an
seulement habiter ensemble? Mm-hmm.
Ben, de mémoire, là, peut-être.
Que c'est un an.
Vous pourriez me... Quand je faisais mon rapport d'impôt, il me semble que c'était un an. 418-971-102.
OK. Est-ce que t'as toujours dit?
Ben oui, j'ai pas de problème avec ça. Quand t'es en couple avec quelqu'un, là, l'honnêteté est hyper importante. Parce que si la personne gagne, comme j'ai trop souvent vu, là, 35 000 par année, puis l'autre en gagne 100 000, puis il partage les frais 50-50...
Ça fonctionne pas.
Vous m'excuserez, moi, je trouve que ça a pas de bon sens.
Un an. Avoir habité au moins
c'est
un an.
C'est ça. Quand les salaires sont comparables, tout le monde paye 50-50, je trouve ça correct. Mais si les salaires sont disproportionnés, puis tu ruines ta partenaire de vie ou tu ruines ton partenaire de vie en lui demandant 50% de la maison, ça a comme pas de sens.
On est d'accord.
Puis avec tes amis, est-ce que tu en parles, ça?
Non. Non, j'ai jamais parlé de mon salaire avec mes amis. Anyway, ils pensent tous que je suis pauvre en regardant mon linge. Hey, on parlait de la Caisse de dépôt et de placement. Petite nouvelle, un nom qui m'a donné des cauchemars il y a de ça quelques années, qui est revenu dans l'actualité. Le gars, il a 76 ans aujourd'hui. Henri-Paul Rousseau, ça vous rappelle-tu quelque chose, ça?
Ça fait longtemps, ça.
C'est l'ancien boss de la Caisse de dépôt et de placement. Il a 76 ans et la CAQ vient de donner une petite job à Paris, à mes amis. Henri-Paul Rousseau a été à la tête de la Caisse de dépôt et de placement. Puis quand il a sacré son camp, il nous avait coûté 40 milliards de dollars.
Et pareil, il avait coûté cher, lui?
40 milliards de dollars. Bon, ça ne se tiendra pas pour 200 millions, là, mais c'est 39,8 milliards de dollars. Pff, fait que c'est énormément d'argent. Il succède à qui? Ben, je rappellerai qu'Henri-Paul Rousseau a travaillé pour la Caisse de dépôt et de placement. Il succède à qui? Il succède à Paris à Michel Boisvert. Qui est Michel Boisvert? C'est la conjointe du PDG de la Caisse de dépôt et de placement, Jean-Marc Arbeau. Henri-Paul Rousseau, qui est à Caisse de dépôt et de placement, qui a 76 ans, s'en va remplacer la dame qui était là, qui est Michel Boisvert, qui a travaillé aussi à la Caisse de dépôt et de placement. Et elle, c'est la conjointe du gars de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbeau, qu'on a vu présenter le rapport de la mobilité à Québec.
Toi, tu trouves que c'est encore des amis?
On dirait que Québec, c'est un grand lit, là. Coudon, tout le monde couche ensemble. Je vous parlais de ça il y a de ça quelques années quand j'étais dans une autre vie radio, puis il n'y avait personne qui avait réalisé ça. Fut un temps au Québec là, où le boss de la Sûreté du Québec, le boss de l'UPAC, puis la boss des enquêtes spéciales, c'était 3 membres d'une même famille.
OK.
Ça arrive dans un pays de cul, là. Ça arrive dans un pays de cul, tu dis, ben regarde, c'est un pays de cul, là. Fait que les amis des amis, le frère, la soeur, tout le monde se donne...
Il y a de la gestion.
Mais tout le monde se donne un job. Mais comment tu peux mettre 3 personnes d'une même famille dans 3 postes stratégiques? Je comprends pas.
T'es-tu en train de dire qu'ils ont pas tous le même talent de gestionnaire, là, puis que c'est bizarre qu'ils se ramassent tous gestionnaires d'un endroit ou qu'ils connaissent tous le même monde?
Ben, je trouve ça. Je lève un flag.
Oui.
Je pose des questions.
On dirait que tu es sceptique quant à la nomination de ces gens-là. Ouais.
Parce que comment le gars de l'UPAC pouvait être le père de la fille aux enquêtes spéciales, la grande boss des enquêtes spéciales, puis comment cette fille-là pouvait être la femme du boss de la Sûreté du Québec? Comment ça peut arriver, ça? Là, c'est la Caisse de dépôt et de placement qui est dans le tordeur. Mais je veux dire, Henri-Paul Rousseau, là, il nous a fait perdre 40 milliards. Puis à 76 ans, on lui donne encore des petits nananes. Ça en va remplacer une fille qui, avant, était à la Caisse de dépôt et de placement, qui sort avec le boss de la Caisse de dépôt et de placement, Infra, là, la portion Infra.
Ouais.
Mais c'est comme si tout le monde couchait ensemble.
Tout le monde se connaît.
Connais-tu les bonnes personnes, Pascal?
Ça dépend dans quel secteur. Je te dirais que pour aller à Bonnaroo, j'ai connu les bonnes personnes.
Ouais, c'est ça. Mais comment ça peut arriver, ça? Y a tout
Sauf
le
que des... ça engage personne d'autre que moi et ses amis-là à Bonnaroo. Je suis pas en politique, là. Je donne pas des postes à des gens, moi.
Non, c'est ça.
Tu sais, même en radio, on m'a déjà dit, même si tu faisais un show avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ça veut pas dire que ça serait bon. Ça pourrait être épouvantablement mauvais. Fait qu'imagine. Ils m'ont mis mon pire ennemi en face de moi.
Exactement.
À vous de juger, si
une
c'est
heure
bon.
Trois, on fait une...
C'est pas vrai, c'est pas mon ennemi. Il y en a qui vont croire ça.
Courte pause. Oh. Ben, des fois, on est en couple pour certains. Des
oui?
fois, on
ouais,
est
c'est vrai.
Les pires ennemis.
On doit Écoute, faire notre tout job. Le monde est choisi. C'est le tribunal public ici.
418-971-1021. 418-971-1021. On vient.
Marceau le midi.